Salut à tous les ornithos et bienvenue de nouveau dans votre émission Carrément Rétro, la seule émission de la bande FM qui aborde la culture rétro geek et présentée par votre serviteur Johan Sega. Jingle. La suite des aventures de Sonic, c'est maintenant. Si au sein de l'équipe, la détermination et la cohésion sont sans faille, certains désaccords apparaissent entre Sega of America et la Sonic Team. Pendant que Yuji Naka programme le jeu, Naoto Oshima réfléchit au scénario. Grand féru de pop music, notamment de Michael Jackson, il imagine d'abord une trame moderne, bien loin des clichés habituellement véhiculés par le jeu vidéo. À cette époque, il n'est pas rare de découvrir une relation amoureuse entre un personnage au physique animal et un humain. C'est notamment le cas dans le film « Qui veut la peau de Roger Rabbit ?» tout comme dans les dessins animés cultes de Tex Avery. Son premier script méconnu s'inscrit ainsi dans cet héritage-là. Lorsqu'une démo du jeu est discrètement présentée au Tokyo Taisho 90, du 7 au 10 juin 1990, Sonic traverse un premier stage déjà très sophistiqué avec son scrolling différentiel de 7 plans. Les couleurs sont beaucoup plus sombres, mais esquisse déjà les bases graphiques. Palmiers, verdure et volume. Mais surtout, l'écran titre met en scène le hérisson aux côtés d'une blonde pulpeuse. Haha, était-ce Mélodie ? Nous le saurons plus tard. En effet, dans la première version du scénario, Naoto Oshima fait de Sonic le leader d'un groupe de rock. Plus incongru encore, le chanteur à pic y est décrit comme le petit ami d'une chanteuse au nom évoquant celui d'une star internationale, Madonna. Tout dans son design rappelle la célèbre artiste et la demoiselle va se retrouver au centre d'une histoire qui ne sera jamais finalisée. Finalement, un changement radical bouleverse en effet les plans du scénariste. Un certain Tom Kalinske arrive à la tête de Sega of America et refuse catégoriquement d'associer un petit animal bleu étrange à un personnage d'apparence humaine. Mais plus que le personnage, c'est le scénario même du jeu qui pose problème. Une vraie bataille s'engage entre l'équipe japonaise et la responsable commerciale de Sega of America, Madeline Schwarder. Cette dernière, appuyée par Tom Kalinske, s'est rendue sur l'archipel nippon pour mettre les points sur les i, comme on dit. Pour les hautes instances du drapeau aux étoiles, Sonic n'a rien à foutre avec une femme de forme humaine et qui plus est, avec une héroïne d'une telle trempe. En outre, le scénario rappelle beaucoup trop Mario et sa princesse. La sanction est également sans appel pour le groupe de musique du scénario, lui aussi radié du script final. Je pense que la trame scénaristique, imaginée par Oshima-san, était très japonaise et Sega of America souhaitait un univers un peu plus américain. Et je peux vous garantir que les changements effectués par l'équipe commerciale US ont été haïs par la Sonic Team, témoigne Shinobu Toyoda, le producteur exécutif du jeu à l'époque. Seulement, la société souhaite dès le départ que la mascotte devienne populaire aux États-Unis et dans cette optique, accorde plein crédit à son antenne états-unienne pour juger du jeu. Or, le rejet du scénario par Sega of America est radical, tout juste si la branche américaine ne s'oppose pas à l'existence même de ce nouveau héros. Alors que le jeu est déjà bien avancé, Kalinske confiera quelques années plus tard, les Japonais à notre insu ont conçu le personnage de Sonic le Hérisson. En Amérique, Sonic paraissait ridicule parce que le hérisson est un petit animal et en plus de cela, il était bleu. On pensait que c'était stupide, mais incontestablement, le jeu était vraiment bon et le personnage est entré dans la mémoire collective. Finalement, même mea culpa du côté de l'équipe japonaise. Naka avoue ainsi avoir eu du mal à digérer ce changement scénaristique, mais estime qu'il a été bénéfique. Au final, exit Madonna, exit le rock, Sonic doit sauver les animaux transformés en robots par le Dr Robotnik, un gentil, un grand méchant, un thème écologiste consensuel et simple à comprendre, remplace finalement le script original. Enfin, pour enrichir le gameplay du jeu, les Chaos Emeralds font même leur apparition, les fameuses émeraudes du chaos. Il s'agit de pierres précieuses que le hérisson doit débusquer pour découvrir la véritable fin du jeu. Une manière d'étoffer ses niveaux et de donner plus d'épaisseur au jeu qui approche alors de sa version finale. Il ne lui manque que sa signature audio. Et la signature audio, on peut la décrire comme ça. Dream come true, ingénieur du hérisson. La bande-son dans un jeu vidéo est parfois aussi importante que les visuels et la prise en main. C'est aussi ce que pense un directeur de Sega, anciennement employé dans une société de musique et qui propose que les pistes du jeu soient conçues par des professionnels. Après tout, le nom Sonic peut se traduire par acoustique en anglais. Pour son poulain, la firme ne fait pas les choses à moitié, en faisant appel à un groupe japonais de renom, Dream Come True, alors composé de 3 membres, est né en 88 sous le nom de Cha-Cha et Audrey Project, une appellation vite abandonnée. Au cours de l'année 90, alors que Sega est en plein développement de Sonic, le leader compositeur et guitariste du groupe, Masato Nakamura, est contacté pour réaliser la bande sonore du jeu. Sega compte sur sa notoriété et son talent pour écrire les musiques. La suite des aventures audio et vidéo de Sonic, c'est dans votre prochaine émission. Et maintenant, votre pause musicale avec Robert Parker, Make Love.
Till tonight.
Dans votre émission avec Robert Parker, Make Love.
Ornithorynque sur internet, c'est sur www.ornithorynque.net.
Moi j'écoute carrément Rétro Ornithorynque et j'aime ça.
La rubrique Le jeu du jour. Aujourd'hui dans le jeu du jour, Virtua Racing, monument du jeu d'arcade. Le début des années 90 d'ailleurs annonce l'arrivée d'une nouvelle ère, celle de la 3D. Et Sega, voulant acquérir le titre de roi de l'arcade, décide d'emprunter cette voie en utilisant le puissant World System 32 et lui adjoignant, grâce à un partenariat avec General Electric, un chip graphique capable d'afficher de la 3D, donnant naissance au premier d'une grande série de jeux d'arcade, le modèle 1. Et pour le promouvoir, la firme au hérisson sortira ce qui sera un titre mythique, Virtua Racing. Et donc Virtua Racing, c'est un jeu de course en 3D où on pilote une Formule 1 dans 3 circuits. Le but étant de boucler les 5 tours du circuit dans le temps imparti et de finir à la meilleure place. Des checkpoints sur le circuit permettent de gagner du temps supplémentaire afin de pouvoir finir dans les temps. Le jeu fut sorti sur une borne spécialisée en deux modèles. La Twin, qui est à double écran mais propose un équipement sommaire, un simple banc pour s'asseoir et un design un peu austère. Et la Deluxe. Cette borne propose un habitacle de F1 très classe, un écran 16 neuvième rare à l'époque et la possibilité de connecter les bornes entre elles jusqu'à 8. Virtua Racing dispose donc de 3 circuits de difficulté progressive, Big Forest, situé dans une forêt avec un parc d'attractions pour la plus simple, Bay Bridge et son immense pont suspendu à l'américaine pour un niveau médium, et Acropolis, niveau expert, situé sur un lac avec ses falaises escarpées et des ruines grecques qui lui donnent son nom. Chacun de ces circuits est inspiré et dispose de ses propres difficultés. Une boîte manuelle est disponible en appuyant sur Start et permet d'obtenir quelques kilomètres heure de plus que l'automatique. Virtua Racing a donc été un tournant grâce à sa réalisation en 3D, colorée, détaillée et fourmillante de détails tels que arbres, palmiers, attractions, vaches, oiseaux, bâtiments et même humains, avec des mannequins vous donnant le baiser de la chance avant le départ. De plus, on a le droit à des décors très réussis le long du parcours. Et pour couronner le tout, les circuits ne sont pas plats et offrent chacun son propre dénivelé, virage digne de stock car et côte. Notons aussi les effets spéciaux du jeu, tels que les fameuses flammes s'échappant du pot d'échappement, étincelles, herbes arrachées quand on va à l'extérieur de la piste. Le jeu mise aussi sur le côté spectaculaire, avec son fameux crash où la voiture décolle et fait quelques tours sur elle-même avant de retomber sur le sol. D'ailleurs, une gestion des dégâts était incluse, avec les ailerons avant et arrière qui s'abîment en fonction des chocs et peuvent perturber la conduite. Heureusement, vous pouvez vous arrêter dans les stands pour faire réparer votre véhicule avec un staff super bien animé pour l'époque. Virtua Racing dispose d'une ambiance sonore très particulière. Points de musique qui viendront rythmer la course, celles-ci s'activeront dès que vous passerez un checkpoint. Dommage, car celles-ci sont agréables à écouter et collent bien au jeu. Niveau bruitage, le jeu s'en tire avec tous les honneurs en se payant le luxe de reproduire le bruit des véhicules passant à côté de soi. Si le jeu a vieilli techniquement, il est une chose qui a fait sa renommée et continue à le faire, sa maniabilité. On n'est pas encore au dérapage qu'on voit dans Daytona USA ou Sega Rally qui sortiront bien plus tard, mais fort est de constater que le pilotage de la Formule 1 est incroyablement jouissif. On se plaît à enchaîner les virages et les dépassements des concurrents sans s'ennuyer une seule seconde. Mieux, on en redemande. De plus, le jeu dispose d'une formidable impression de vitesse qui nous scotche. Mais sous ce titre se cache une très grande difficulté. Virtua Racing est en effet assez exigeant puisque les erreurs de pilotage ne sont pas pardonnées. Une sortie de piste ou une collision contre l'arrière de l'adversaire sera pénalisé par un tête-à-queue vous faisant perdre de précieuses secondes. Le timing est d'ailleurs serré et il faudra un sacré pilotage pour parvenir à franchir la ligne d'arrivée. Ne parlons pas d'obtenir la première place car les concurrents ne se laissent pas doubler aussi facilement et cette tâche s'avère extrêmement difficile même sur le circuit beginner. Même s'il n'a pas eu la chance d'être le premier jeu de course en 3D, Virtua Racing est le grand-père de tous les jeux de course modernes. Malgré sa réalisation, aujourd'hui dépassé, mais au charme désoué et conservant toujours son set jouissif, Virtua Racing fait partie de ces titres qui ont construit l'histoire du jeu vidéo et qui continuent à nous émerveiller même 30 ans après. À titre personnel, j'y ai énormément joué dans la version Deluxe en arcade, dans une salle d'arcade dans la ville du Mans. À l'époque, je grillais les pièces de 10 francs par paquet de 10. Je lui donne même encore la note de 9 sur 10 pour ce jeu, car il est toujours aussi jouissif. Vous pouvez le trouver sur les consoles Sega, Mega Drive, Saturn et 32X. C'est des jeux qui coûtent pas très cher, à part la version 32X, qui est forcément un peu plus élevée et un peu plus cotée compte tenu de la rareté du nombre de cartouches produites. Comptez une petite vingtaine d'euros pour les autres. Pour toutes vos questions, suggestions et idées, n'hésitez pas à me contacter sur johan@ornithorynque.net. Je répète, johan@ornithorynque.net. Salut les rétros, j'espère que vous avez passé un excellent rétro moment en ma compagnie. Je vous dis bye bye et à la prochaine !